Nous étions encore en train de travailler sur le discours lorsque nous avons atterri à Riyad, en Arabie Saoudite, où je devais rencontrer le roi Abdallah ben Abdelaziz Al Saoud, gardien des deux mosquées sacrées, de la Mecque et de Médine, le dirigeant le plus puissant du monde arabe. Je n'avais encore jamais mis les pieds dans le royaume, et la première chose que j'ai remarquée à l'aéroport lors de la somptueuse cérémonie d'accueil a été l'absence totale de femmes et d'enfants sur le tarmac ou dans les terminaux. Il n'y avait que des rangées d'hommes à moustaches noires en uniforme militaire ou bien parés des vêtements traditionnels, le thab, une longue tunique, et la goutra, un foulard couvre-chef. Je m'y attendais, bien sûr. Les choses étaient ainsi dans le golfe. Mais en montant dans la bête, j'ai été frappé par le côté oppressant et triste qui se dégageait d'un lieu pratiquant ainsi la ségrégation, comme si j'étais soudain entré dans un monde où toutes les couleurs avaient été effacées. Le roi avait prévu que mon équipe et moi soyons accueillis à son hara, non loin de Riyad, et tandis que notre cortège de voitures, escorté par la police, prenait de la vitesse sur une large autoroute impeccable, chauffée à blanc par le soleil, que défilaient les imposants immeubles de bureaux sans ornement, les mosquées, les boutiques et les salles d'exposition de voitures de luxe, laissant bientôt place au désert âpre, je me suis dit que l'islam de l'Arabie Saoudite ressemblait peu à l'islam que j'avais connu enfant en Indonésie. À Jakarta, dans les années 1960 et 1970, l'islam occupait à peu près la même place dans la culture du pays que le christianisme dans toute ville américaine, petite ou grande. Importante, mais pas dominante. L'appel à la prière du muezzin scandait les journées, les mariages et les funérailles obéissaient aux rituels prescrits, les activités ralentissaient durant le mois du jeûne, et il pouvait être difficile de trouver du porc au menu des restaurants. Mais par ailleurs, les gens vivaient leur vie. Les femmes en jupe courte et talons hauts conduisaient des Vespa pour aller travailler dans des bureaux. Les garçons et les filles jouaient au cerf-volant. Des jeunes aux cheveux longs dansaient sur la musique des Beatles et des Jackson 5 à la discothèque locale. Les musulmans dans l'ensemble ne se distinguaient pas des chrétiens, des hindous ou des athées ayant fréquenté l'université comme mon beau-père, quand ils s'entassaient dans les bus bondés ou les salles de cinéma pour voir le dernier film de kung-fu, fumaient à l'extérieur des tavernes sur le bord de la route et déambulaient dans la cacophonie des rues. Rares étaient ceux qui affichaient ostensiblement leur piété en ce temps-là, et sans être objet de moquerie, au moins se démarquaient-ils du reste de la population, comme les témoins de Jéhovah qui distribuent leurs prospectus dans certains quartiers de Chicago. L'Arabie Saoudite avait toujours fait figure d'exception. Abdelaziz ibn Saoud, le premier monarque de la nation et père du roi Abdallah, qui avait entamé son règne en 1932, était profondément attaché à l'enseignement de l'ecclésiastique Mohammed ben Abdelwahab, remontant au XVIIIe siècle. Les adeptes d'Abdelwahab prétendaient pratiquer une version non corrompue de l'islam, considérant l'islam chiite et l'islam soufi comme hérétiques et observant des principes religieux jugés conservateurs même au regard des critères de la culture arabe traditionnelle. Ségrégation sexuelle en public, absence de contact dans la mesure du possible avec les non-musulmans et rejet de l'art et de la musique profane ainsi que des autres passe-temps susceptibles de vous détourner de la foi. À la suite de l'effondrement de l'Empire ottoman, à la fin de la Première Guerre mondiale, Abdelaziz avait renforcé son contrôle sur d'autres tribus arabes et fondé l'Arabie Saoudite en accord avec ses préceptes wahhabites. Sa conquête de la Mecque, lieu de naissance du prophète Mahomet et destination de pèlerinage pour tous les musulmans soucieux d'accomplir les cinq piliers de l'islam, et de la ville sainte de Médine, lui fournit une plateforme à partir de laquelle exerçait une vaste influence sur la doctrine islamique dans le monde entier. La découverte de gisements de pétrole saoudien et la richesse phénoménale qui en découla renforcèrent cette influence. Mais cela exposait également au grand jour les contradictions qu'il y avait à respecter ces pratiques ultra-conservatrices dans un monde se modernisant rapidement. Abdelaziz avait besoin de la technologie, du savoir-faire et des canaux de distribution occidentaux pour exploiter pleinement le trésor nouvellement trouvé et s'allia avec les États-Unis pour obtenir des armes modernes et protéger les champs de pétrole des États rivaux. Les membres de l'immense famille royale permirent à des sociétés occidentales d'investir dans leurs vastes holdings et envoyèrent leurs enfants à Cambridge et à Harvard pour qu'ils apprennent les pratiques commerciales modernes. De jeunes princes découvrirent les attraits des villas françaises, des boîtes de nuit londoniennes, des salles de jeux de Vegas. Je me suis parfois demandé si la monarchie saoudienne aurait pu, à un moment, réévaluer ses engagements religieux, prenant acte du fait que le fondamentalisme wahhabite, comme toute forme de fondamentalisme religieux, était incompatible avec la modernité, et utilisait sa richesse et son autorité pour orienter l'islam sur une voie plus modérée et plus tolérante. Probablement pas. Les anciennes pratiques étaient trop profondément ancrées, et quand les tensions avec les fondamentalistes se sont avivées dans les années 1970, la famille royale a peut-être compris, à raison, que la réforme religieuse conduirait aussi inexorablement à engager des transformations politiques et économiques lourdes. Au lieu de cela, afin d'éviter une révolution semblable à celle qui avait instauré une république islamique dans l'Iran voisin, la monarchie saoudienne a conclu un pacte avec ses religieux les plus durs. En échange de la légitimation du contrôle absolu de la maison des Saouds sur l'économie et le gouvernement de la nation, et de leur bonne disposition à regarder ailleurs quand des membres de la famille royale succombaient à certaines tentations peu avouables, les ecclésiastiques et la police religieuse se voyaient confier l'autorité de réguler les interactions sociales quotidiennes, de décider de ce qui était enseigné à l'école et d'infliger des châtiments à ceux qui enfreignaient les décrets religieux, des flagellations en public à de véritables crucifixions, en passant par l'amputation de la main. Et pour couronner le tout, la famille royale a versé des milliards de dollars à ces mêmes ecclésiastiques pour qu'ils construisent des mosquées et des écoles religieuses, des médersas dans le monde sunnite. Résultat, du Pakistan à l'Égypte, du Mali à l'Indonésie, le fondamentalisme a gagné du terrain, la tolérance pour des pratiques plus modérées de l'islam s'est affaiblie, la pression pour instaurer des gouvernements islamiques s'est intensifiée et les appels à purger le territoire islamique de l'influence occidentale, par la violence si nécessaire, sont devenus plus fréquents. La monarchie pouvait être satisfaite d'avoir évité une révolution à l'iranienne à l'intérieur de ses frontières, mais aussi parmi ses partenaires du Golfe, même si maintenir un tel ordre requérait un service de police répressif et une importante censure des médias. Mais cela avait été au prix de l'accélération d'un mouvement fondamentaliste transnational qui réprouvait l'influence occidentale, regardait d'un œil soupçonneux le flirt des Saoudiens avec les États-Unis et avait offert un terreau fertile à la radicalisation de nombreux jeunes musulmans. Des hommes comme Oussama Ben Laden, fils d'un important homme d'affaires saoudien proche de la famille royale, et les 15 ressortissants saoudiens qui, avec 4 autres, ont planifié et mis en œuvre les attaques du 11 septembre. Ara n'était pas tout à fait le terme qui convenait. Avec son terrain immense et ses nombreuses villas, sa robinetterie en or plaqué, ses lustres en cristal et son mobilier cossu, le complexe du roi Abdallah ressemblait à un hôtel Four Seasons planté en plein désert. Le roi lui-même, un octogénaire à la moustache et à la barbe d'un noir de jais, la vanité mâle était un trait partagé chez les dirigeants internationaux, m'a salué chaleureusement à l'entrée de ce qui semblait être la résidence principale. Avec lui se trouvait l'ambassadeur saoudien aux États-Unis, Adel Al-Joubert, un diplomate rasé de près, ayant étudié aux États-Unis, dont l'anglais impeccable, les manières onctueuses, le sens des relations publiques et l'épais carnet d'adresses à Washington, faisait un émissaire du royaume tout indiqué pour tenter de limiter les dégâts au lendemain du 11 septembre. Le roi était d'humeur expansive ce jour-là, et avec Al-Joubert faisant office d'interprète, il s'est remémoré avec tendresse la réunion entre son père et Franklin Roosevelt en 1945 à bord de l'USS Quincy, a dit toute l'importance qu'il accordait à l'alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, et m'a confié la satisfaction qu'il avait éprouvée quand j'avais été élu président. Il se réjouissait d'avance à l'idée que je prononce un discours au Caire, soulignant que l'islam était une religion de paix, rappelant le travail qu'il avait personnellement accompli pour renforcer le dialogue interconfessionnel. Il m'a également assuré que le royaume collaborerait avec mes conseillers économiques pour faire en sorte que les prix du pétrole n'entravent pas la reprise après la crise. S'agissant de deux de mes requêtes, que le royaume et d'autres membres de la Ligue arabe envisagent de faire un geste favorable en direction d'Israël, qui pourrait relancer les pourparlers de paix avec les Palestiniens, et que notre équipe discute du possible transfert de certains prisonniers de Gitmo dans des centres de réhabilitation saoudiens, le roi est resté évasif, craignant manifestement la controverse. La conversation s'est détendue au banquet de midi que le roi avait organisé en l'honneur de notre délégation. C'était un véritable festin, tout droit sorti d'un conte de fées. Une table de plus de 15 mètres de long, chargée d'agneaux rôtis, de monticules de riz au safran et de toutes sortes de mets délicats, traditionnels et occidentaux. Parmi la soixantaine de personnes assistant au repas, Alissa Mastromonaco, ma directrice de l'agenda, et Valérie Jarrett, ma conseillère principale, étaient deux des trois seules femmes présentes. Alissa avait l'air contente de discuter avec les représentants saoudiens assis près d'elle, même si elle paraissait avoir du mal à empêcher le foulard qu'elle avait sur la tête de tomber dans son bol de soupe. Le roi a demandé des nouvelles de ma famille, et je lui ai dit que Michel et les filles s'adaptaient à leur nouvelle vie à la Maison-Blanche. Il m'a expliqué qu'il avait lui-même 12 femmes. Le nombre était, semble-t-il, en réalité, plus proche de 30, ainsi qu'une quarantaine d'enfants et des douzaines de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. J'espère que ça ne vous ennuie pas que je vous pose la question, Votre Majesté, mais comment faites-vous avec 12 épouses ? J'ai bien du mal, a-t-il dit en secouant la tête d'un air las. Il y en a toujours une qui est jalouse de l'autre. C'est encore plus compliqué que la politique au Moyen-Orient. Plus tard, Ben et Dennis sont venus à la villa où je logeais pour que nous discutions des dernières modifications à apporter au discours du Caire. Au moment de nous mettre au travail, nous avons avisé une imposante mallette sur le manteau de la cheminée. J'ai défait les attaches et relevé la partie supérieure. D'un côté, il y avait une grande scène de désert sur un socle de marbre où se trouvaient des figurines miniatures en or, ainsi qu'une horloge en verre fonctionnant grâce au changement de température. De l'autre côté, disposé dans un écrin de velours, un collier, long comme la moitié d'une chaîne de vélo, incrusté de rubis et de diamants, qui valait sans doute des centaines de milliers de dollars, avec une bague et des boucles d'oreilles assorties. J'ai relevé la tête et regardé Ben et Dennis. Un petit cadeau pour votre dame, a dit Dennis. Il a expliqué que d'autres membres de la délégation avaient trouvé des mallettes avec des montres de luxe qui les attendaient dans leur chambre. Apparemment, personne n'a parlé aux Saoudiens de notre interdiction d'accepter les cadeaux. Soupesant les lourds bijoux, je me suis demandé combien de fois des présents de ce genre avaient été discrètement laissés pour d'autres chefs d'État au cours de visites officielles dans le royaume. Des dirigeants dont les pays n'observaient pas les mêmes lois concernant les cadeaux diplomatiques ou bien les appliquaient libéralement. J'ai repensé aux pirates somaliens dont j'avais ordonné l'exécution, tous musulmans, et à tous les jeunes hommes comme eux de l'autre côté des frontières proches du Yémen et de l'Irak, et en Égypte, en Jordanie, en Afghanistan et au Pakistan, dont les revenus d'une vie entière n'atteindraient jamais le prix du collier que j'avais entre les mains. Il suffisait de radicaliser seulement 1% de ces jeunes hommes, et vous aviez une armée de 500 000 hommes, prêts à mourir pour la gloire éternelle, ou peut-être simplement pour goûter à quelque chose de meilleur. J'ai reposé le collier et refermé la mallette. « Bon, allez, » ai-je dit, « au boulot. » La métropole du Caire comptait plus de 16 millions d'habitants. Nous n'en avons pas vu un seul le lendemain en la traversant depuis l'aéroport. Les rues réputées chaotiques étaient vides sur des kilomètres, à l'exception d'agents de police postés partout, preuve de la poignée extraordinaire avec laquelle le président égyptien Hosni Moubarak tenait son pays. Et rappelle qu'un président américain était une cible tentante pour des groupes extrémistes locaux. Si la monarchie traditionnaliste d'Arabie Saoudite représentait une des deux voies de la gouvernance arabe moderne, le régime autocratique d'Égypte représentait l'autre. Au début des années 1950, Gamal Abdel Nasser, un colonel charismatique et raffiné, avait orchestré le renversement militaire de la monarchie égyptienne et institué un État laïque avec parti unique. Peu après, il avait nationalisé le canal de Suez, triomphant des tentatives d'intervention militaire des Britanniques et des Français, ce qui fit de lui une figure internationale de la lutte contre le colonialisme et, de loin, le leader le plus populaire du monde arabe. Nasser poursuivit sur sa lancée et nationalisa d'autres industries clés, initia une réforme agraire et lança de gigantesques projets publics, tout cela afin d'éliminer les vestiges de la tutelle britannique comme du passé féodal égyptien. À l'étranger, il fit activement la promotion d'un nationalisme pan-arabe laïque vaguement socialiste, livra une guerre perdue d'avance contre les Israéliens, contribua à la création de l'Organisation de Libération de la Palestine, OLP, et de la Ligue Arabe, et devint un membre fondateur du Mouvement des Pays Non-Alignés, qui refusait de prendre parti pour un camp ou pour l'autre dans la guerre froide, mais s'attira la suspicion et le courroux de Washington, notamment parce qu'il acceptait une aide économique et militaire des Soviétiques. Nasser s'en prit aussi impitoyablement à la dissidence et à la formation de partis politiques concurrents en Égypte, visant en particulier les Frères musulmans, groupe cherchant à établir un gouvernement islamique sur la base d'une mobilisation politique de terrain et de bonnes œuvres, mais dont certains membres avaient parfois recours à la violence. Le style d'exercice autoritaire du pouvoir de Nasser fut si marquant que, même après sa mort en 1970, certains dirigeants du Moyen-Orient tentèrent de l'imiter. N'ayant ni sa sophistication ni son art pour galvaniser les foules, des hommes comme Hafez el-Assad en Syrie, Saddam Hussein en Irak et Muammar Kadhafi en Libye se maintinrent cependant au pouvoir en grande partie grâce à la corruption, au clientélisme et à la répression brutale, tout en menant une campagne constante bien qu'inefficace contre Israël. En 1981, après l'assassinat du successeur de Nasser, Anwar el-Sadat, c'est Hosni Moubarak qui s'empara du pouvoir, usant à peu près de la même formule, avec une différence notable. La signature par Sadat d'un accord de paix avec Israël avait fait de l'Égypte un allié des États-Unis, si bien que les gouvernements américains successifs furent amenés à ne pas trop prêter attention à la corruption croissante du régime, à ses résultats très médiocres en matière de droits fondamentaux et à son antisémitisme rampant. Alimenté financièrement par des aides en provenance non seulement des États-Unis, mais aussi des Saoudiens et d'autres États du Golfe producteurs de pétrole, Moubarak ne s'était jamais soucié de réformer l'économie stagnante de son pays, laissant toute une génération de jeunes Égyptiens désœuvrés, incapables de trouver un emploi. Notre cortège de voitures nous a conduits au palais d'Al-Koba, un bâtiment très ouvragé du milieu du XIXe siècle, l'un des trois palais présidentiels du Caire, et après une cérémonie de bienvenue, Moubarak m'a invité dans son bureau pour une discussion d'une heure. Il avait 81 ans, mais était encore large d'épaules et vigoureux, un nez romain, des cheveux noirs ramenés en arrière et des yeux aux paupières lourdes qui lui donnaient l'air d'un homme à la fois accoutumé au pouvoir et qui en était légèrement las. Après avoir parlé avec lui de l'économie égyptienne et lui avoir demandé quelles seraient ses idées pour insuffler un nouvel élan au processus de paix israélo-arabe, j'ai abordé la question des droits fondamentaux, suggérant des mesures qu'il pourrait prendre, comme libérer des prisonniers politiques et lever les restrictions sur la presse. Dans un anglais avec un fort accent mais assez correct, Moubarak s'est empressé de me dire que ses services secrets ne visaient que les islamistes et que le peuple égyptien soutenait fortement son approche. Je suis resté sur l'impression que j'aurais souvent en rencontrant des autocrates d'un certain âge. Enfermés dans leur palais, avec pour seul contact avec le monde extérieur les fonctionnaires obséquieux au visage sévère qui les entouraient, ils étaient incapables de faire la distinction entre leurs intérêts personnels et ceux de leur nation, leurs actes étant motivés par la seule ambition d'entretenir le réseau enchevêtré de copinage et d'intérêts commerciaux qui les maintenait au pouvoir. Quel contraste cela a été de pénétrer dans le grand hall de l'université du Caire pour trouver une salle comble, pleine d'une énergie crépitante. Nous avions insisté auprès du gouvernement pour qu'une assemblée aussi représentative de la société égyptienne que possible puisse assister à mon discours. Et il était évident que la simple présence d'étudiants, de journalistes, d'universitaires, de présidentes d'organisations de femmes, de militants associatifs et même de certains ecclésiastiques éminents et de quelques figures des frères musulmans parmi les 3000 personnes rassemblées, allaient contribuer à en faire un événement singulier qui toucherait un vaste auditoire dans le monde entier grâce à la télévision. Dès que je suis arrivé sur scène et que j'ai prononcé la formule de salutation « Salam alaikum », un grondement d'acclamations est monté de la foule. J'ai pris soin de préciser qu'un discours ne résoudrait pas des problèmes profondément enracinés, mais tandis que les hurrahs et les applaudissements continus ponctuaient mes propos sur la démocratie, les droits fondamentaux, les droits des femmes, la tolérance religieuse et la nécessité de parvenir à une paix authentique et durable entre un État d'Israël protégé de tout danger et un État palestinien autonome, j'ai pu me représenter les débuts d'un Moyen-Orient nouveau. À ce moment-là, il n'était pas difficile de concevoir une vision alternative de la réalité dans laquelle les jeunes gens dans cet auditorium montraient de nouveaux commerces et bâtiraient des écoles, intégreraient des gouvernements efficaces et à l'écoute des citoyens, se mettraient à réimaginer leur foi d'une manière à la fois respectueuse de la tradition et ouverte à d'autres sources de sagesse. Peut-être que les hauts responsables du gouvernement, assis au troisième rang, le visage fermé, ont imaginé cela eux aussi. J'ai quitté la scène sous une ovation prolongée, et j'ai absolument tenu à retrouver Ben, qui, par principe, n'assistait jamais à un discours qu'il avait contribué à écrire et se tairait quelque part dans une petite salle, tapotant sur son BlackBerry. Il avait le sourire jusqu'aux oreilles. « On dirait que ça a marché », ai-je dit. « Ça a été un moment historique », a-t-il répondu sans trace d'ironie.